Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Une production Binge Audio, évidemment.
Salut chers auditeuristes, c'est Camille Test. Il faut que je vous parle de mon rapport à la mort. D'abord, j'ai perdu mes deux grands-pères, puis plus tard, ma grand-mère. Je me souviens avoir pleuré aux enterrements. Je garde précieusement des objets qui leur ont appartenu. Je chéris leurs photos, mais je sais aussi que la mort qui vient avec la vieillesse, quoique douloureuse, n'a pas été insurmontable pour moi. Et puis, il y a quelques années, un ami que j'aimais très fort a disparu en mer. On avait le même âge, la même passion pour l'aventure, mais parce qu'on s'était un peu perdu de vue à ce moment-là, je n'ai pas été prévenue de sa mort et je n'ai pas pu assister aux obsèques. Alors, parfois, j'oublie qu'il n'est plus là, je m'attends presque à recevoir un texto de sa part, puis je culpabilise d'avoir eu ce genre de pensée réflexe. Surtout, je crois que je ne l'ai pas encore assez pleuré. Malgré ses morts, je pense avoir été très préservée. Je vis dans un pays en paix, mes parents sont en vie, mon frère est en vie, mes meilleurs amis le sont aussi, et pour le moment, personne autour de moi n'a de problème de santé majeur. Pour autant, j'ai peur de la mort qui fauche par hasard. Une maladie, un accident, un manque de chance, une catastrophe climatique, une mort qui frappe au pire moment et qui ne nous laisse aucun autre choix que de l'affronter. En France, selon l'IFOP, 88% des gens sont angoissés par la mort. Et comme moi, c'est surtout celle des autres qui, elles, redoutent. 83% des parents redoutent la mort de leurs enfants. 70% des gens craignent la disparition de leur amoureux ou amoureuse. Et 70% des gens ont peur de perdre des amis. Si la mort est presque toujours un arrachement, je me dis aussi que si elle nous inquiète tant, c'est peut-être que malgré les milliers d'œuvres culturelles qui en parlent, on ne la comprend pas, on la gère mal, et à force d'essayer de la contourner au maximum, on la subit énormément. Sur le sujet, je dois dire que j'ai l'impression d'avoir un peu avancé grâce aux gens qui, pour nous, ont fait ce travail d'aller regarder la mort en face. Parmi ces personnes, qui en connaissent un rayon sur le sujet et qui en parlent quasiment comme de la météo, il y a Taous Merakchi et Marine Nina Denis. Merci de les accueillir chaleureusement. Bienvenue à toutes les deux, merci infiniment d'être là ce soir pour parler de ce chaleureux sujet. Taous Merakchi, tu es autrice et podcasteuse. On te connaît aussi sous le pseudonyme Jack Parker. Tu as écrit presque une dizaine d'ouvrages, dont Witch Please, un livre qui aborde la sorcellerie, publié chez Pygmalion, Mortel, petit guide de survie à la mort chez Marabout, et ton dernier livre, Le Pan, récemment sorti dans la collection Bestiale chez J.C. Lattès. Depuis 2021, tu racontes aussi des histoires paranormales dans le podcast Feu de camp, diffusé par Énergie, et avant ça, tu étais à la tête d'un super podcast qui s'appelle Mortel, diffusé par Nouvelles Écoutes. Tu as aussi écrit sur les menstruations. J'ai l'impression que tu as un petit goût pour les tabous. Les grands tabous de la vie.
Les niches, globalement. C'est vraiment tous les trucs où personne ne va. Je me dis, bon, moi, je vais me mettre là. Je suis bien. Tous les sujets qui font peur, tous les sujets qui tâchent, j'aime bien.
Pourquoi ?
Bonne question. Je pense que je suis négote. Parce que vraiment, je suis sortie dans un vol de chauve-souris. C'est ce que mes parents m'ont toujours dit. C'est vraiment, j'ai toujours eu une appétence pour la mort et le sang et les trucs bizarres. Et en fait, en grandissant, je me rends compte que ça n'a rien de bizarre et qu'on est très, très nombreux et nombreuses dans ce cas. C'est juste que c'est pas un sujet, enfin, des sujets qui sont mainstream. Mais tout le monde, enfin, beaucoup de gens ont ces goûts qui, malheureusement, n'ont pas de place pour s'exprimer. Et du coup, bah, j'essaye de contribuer à créer des endroits pour que ces goûts s'expriment.
Alors, dans ton podcast Mortel, tu te qualifies de spécialiste de la mort. Alors, tu parles du décès de ton papa, on va y revenir. Mais tu dis qu'en fait, dès l'enfance, tu avais une passion pour la mort que vous partagez d'ailleurs un petit peu avec ton papa. Tu peux nous raconter en deux mots
C'est l'anecdote que je raconte, je crois, dans Mortel, qui est la plus marquante. C'est que quand j'avais 3 ans, mon père m'a emmené voir le 7e sceau. Parce que voilà, c'était ce genre de parents.
Tu peux nous expliquer pour les
Donc le septième saut, c'est un film d'Ingmar Bergman en noir et blanc avec un chevalier qui fait une partie d'échecs avec la mort. Et c'est donc 1h30 de dialogue avec la mort en noir et blanc en Suède. J'avais 3 ans, c'est vraiment parfait. J'avais pas encore vu un seul Disney, mais j'avais vu un Bergman. Donc voilà, mon père m'emmenait dans les cinémas d'arrêt d'essai pour me divertir. Et quand je suis sortie de cette séance, la conclusion que j'en ai tirée, c'est que je me suis tournée vers mon père et je lui ai dit « Tu m'emmèneras voir une mort
?» Il l'a fait ?
Bah, alors, on allait se promener dans les cimetières aussi. Voilà, il ne m'emmenait pas aux zoos, il m'emmenait au cimetière. Voilà, et je grimpais sur les tombes. Et en fait, mon activité préférée, c'était redresser les pots de fleurs sur les tombes et nettoyer les tombes. J'adorais ça, ça me rendait très heureuse. Et je le fais toujours, d'ailleurs. Mais voilà, quand je dis que je suis née là-dedans, c'est vraiment... Je pense que je n'ai pas eu beaucoup de choix. Il n'y a pas trop d'autres voies pour moi que celle-ci.
Donc, alors, autre passionnée de la mort, Marie-Nina Denis, anciennement éditrice, tu es désormais autrice et bibliothérapeute. Tu t'apprêtes à publier un livre qui s'appelle « Accompagner une personne en fin de vie » aux éditions Tom Pouce. Et depuis 2021, tu t'es spécialisée dans l'accompagnement de la fin de vie et du deuil en devenant Thanatodoula ou Doula de fin de vie. Qu'est-ce que c'est, Doula de fin de vie ?
Alors, c'est Thanatodoula.
Thanatodoula.
Alors, Doula de fin de vie, en fait, c'est accompagner les personnes non médicalement pour la fin de vie et le deuil. Voilà, donc aussi bien les personnes en fin de vie que leurs proches.
Alors, on connaît plutôt les doulas pour, en général, plutôt les doulas de naissance, donc des personnes qui viendront accompagner, soutenir moralement des personnes enceintes et des couples durant la grossesse. Qu'est-ce qui fait que toi, tu t'es dit, je vais plutôt aller sur le trépas ?
Alors, moi, pour le coup, la naissance, je m'y intéresse pas beaucoup. J'ai un fils, mais c'est pas une passion pour moi, la naissance. Par contre, je me suis toujours intéressée à la mort. C'est un petit peu comme Taouz. Bon, j'ai pas eu la même enfance, mais c'est quelque chose que j'ai toujours trouvé important et qui m'a toujours questionnée aussi. Et principalement, pendant le Covid, je me suis rendu compte qu'il y avait une vraie problématique d'accompagnement de la mort, que ce soit les personnes qui meurent ou que ce soit les proches, parce qu'on accompagne beaucoup d'un point de vue médical, mais on n'accompagne pas l'humain. Et j'ai eu vraiment envie d'apporter quelque part un petit peu ma petite pierre à ce moment qu'on vit tous, que ce soit personnellement ou que ce soit pour nos proches, en me disant, en fait, on n'est pas éduqué à ça. Justement, c'est tellement tabou la mort que personne ne nous prépare jamais. Par exemple, la naissance, il y a des cours de préparation à la naissance, il n'y a pas de cours de préparation à la mort. Et pourtant, c'est tout aussi important et tout aussi essentiel dans la vie. Donc voilà, mon idée, c'était vraiment d'apporter un peu de vie dans la mort et de l'accompagner au mieux.
Il y a un truc que j'aimerais vraiment savoir, c'est qu'est-ce qui se passe quand, en soirée, par exemple, tu dis « je suis doula de fin de vie
». Alors souvent, on me dit « ça doit être triste ». Voilà, c'est souvent la première. Ou alors, oh, c'est pas drôle. Et alors, oui, forcément, il y a de la tristesse, mais voilà, ce que je dis souvent, c'est que la mort fait partie de la vie et qu'il n'y a pas que de la tristesse dans l'accompagnement de la mort. Il y a des grands moments de joie aussi. Et puis souvent, c'est ou alors les gens ne veulent pas en parler. Voilà, ils détournent le regard en disant ok, mais c'est un sujet qui peut poser problème, on va dire, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur d'en parler, et parce que peut-être que d'en parler, on ne sait jamais ce qui pourrait se passer.
On pourrait se porter malheur.
Exactement.
Alors, je dois vous avouer que j'ai pris un engagement sur les réseaux sociaux avant cette émission, qui est de faire changer d'avis nos auditeuristes sur la mort. Donc voilà, vous êtes dans le même bateau que moi.
Tout va bien.
Mais bon, plus sérieusement, ça nous paraissait hyper important de parler de cette étape de la vie quand on fait un podcast sur la santé mentale, parce que c'est une étape parfois anxiogène, vectrice de grande tristesse, parfois de dépression. En tout cas, c'est un moment de changement très très fort, donc merci d'être là pour en parler. Pour continuer cette conversation, je vais demander à notre psychiatre préféré, Daniel Batoula, de nous rejoindre.
Bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir. Bonsoir. Daniel, comment la question de la mort, elle se manifeste dans ton métier ? Est-ce que toi, tu es confronté à la mort en tant que psychiatre ?
Alors, comme je suis psychiatre, j'ai fait des études médicales. Donc, dans les études médicales, on sait que les gens ils vont finir par mourir à un moment donné de maladie ou de vieillesse, de mort naturelle. Donc, j'y suis confronté depuis le début de mes études. Et en tant que psychiatre, on en parle beaucoup parce qu'on est confronté à des personnes qui vont avoir des pathologies et qui ont des pathologies qui les amènent à avoir des idées suicidaires et faire des tentatives de suicide avec des fois des décès. Donc, c'est quelque chose qui est assez quotidien chez nous. Donc, on est assez à l'aise avec ça. Les doulas de fin de vie, ça ne me choque pas.
Mais toi, par exemple, est-ce que tu as déjà été confronté au suicide d'un patient, d'une patiente ? Et si oui, est-ce que toi-même, tu es accompagné dans ces cas-là ? Parce que j'imagine que ce n'est pas rien quand même.
Alors, moi, ça m'est déjà arrivé. J'ai déjà eu des patients qui sont suicidés, des patients que je suivais, soit c'était en consultation. Enfin, ils sont suicidés alors que je les suivais en consultation. C'est des personnes qui étaient hospitalisées, qui sont suicidées pendant une hospitalisation, parce que c'est des choses qui peuvent arriver également. Le suicide, il n'y a rien qui ne protège entièrement du suicide. Même dans un hôpital, on a beau faire tout ce qu'on veut pour essayer de prévenir un maximum, pour encadrer un maximum, ça arrive aussi dans les hôpitaux. Et il y a plusieurs réaction que j'ai eue selon les patients. Donc il y a des choses où j'ai eu des contacts réguliers avec la famille. Il y a pour une patiente, je suis allé à l'enterrement aussi, puisque j'avais rencontré la famille à plusieurs reprises pendant l'hospitalisation. Donc moi, je me suis impliqué aussi là-dedans et j'en avais besoin. Je le sentais que c'était nécessaire pour moi. On n'est pas obligatoirement accompagné. Par contre, pendant nos études, on est interne, donc on est à l'hôpital et on est encadré par des chefs. Et s'il y a des soucis, en général, on peut assez rapidement leur en parler. Donc moi, j'ai des internes et quand ils disent que bon, voilà, il y a eu des décès ou c'est assez compliqué, on prend un temps, on leur dit ben, on va en discuter. De quoi est-ce que tu veux parler exactement? Qu'est-ce qui a été difficile? Et surtout, essayer de déculpabiliser un maximum parce que nous, dans notre métier, on essaye de faire en sorte que la mort n'arrive pas, mais on sait que ça va arriver à certains moments. Si on ne faisait pas notre métier, la mort serait survenue plus rapidement. Et si on fait notre métier, ce n'est pas parce qu'on l'a mal fait qu'il y a eu un suicide. C'est juste parce que ben, parfois, les choses sont plus fortes que nous.
Alors, chers auditeuristes, je vous le rappelle, hein, si la question du suicide vous occupe un petit peu l'esprit, il y a un numéro que vous pouvez appeler, Daniel, si tu veux bien le repréciser.
Oui, c'est le 3114, donc c'est le SOS Suicide National, 3114, donc 3114. Vous pouvez appeler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il y a toujours quelqu'un qui est là pour répondre, pour vous orienter pour répondre déjà à des premières questions. Et puis, s'il y a besoin, ils vous orienteront vers des urgences psychiatriques les plus proches de votre ville et ainsi de suite.
Alors, quand on pense à la mort, on pense bien sûr à la question du deuil. Taous, tu poses directement le décor dans ton podcast Mortel parce que tu expliques que tu as perdu ton papa en 2015 et que là, tu t'es retrouvé projeté dans un deuil. Et ce que j'ai trouvé particulièrement intéressant, c'est le fait que, contrairement à ce qui est souvent décrit, la question des, par exemple, les 5 étapes du deuil, il y a une psychiatre qui s'appelle Elisabeth Kübler-Ross qui, en 69, a théorisé le fait qu'il y aurait 5 étapes dans le deuil, le déni, la colère, le marchandage, la dépression, puis l'acceptation. Toi, tu montres qu'en fait, ça ne se passe pas vraiment comme ça, ou en tout cas, ces étapes, elles ne sont pas aussi régulières et logiques que ce qu'on peut penser.
C'est pas linéaire en fait, c'est ce que ma psy m'avait dit à l'époque et qui m'avait vachement rassurée. Et ensuite, elle m'avait prêté l'ouvrage de Christophe Fauré qui s'intitule Vivre le deuil au jour le jour, qui m'a littéralement sauvé la vie. Dans lequel, enfin, c'était la première fois que je voyais ces mots écrits noir sur blanc de tout ce que vous vivez, même si moi je le décris pas dans les cas de figure que je décris dans mon livre, tout ce que vous vivez est normal, légitime, n'est pas grave, et que le deuil pathologique c'est vraiment 45 étapes plus loin, et que c'est pas parce qu'au bout de 6 mois vous êtes encore triste que c'est pathologique, parce que malheureusement on est dans une société qui va très vite, où chacun vit plein de trucs et où le deuil et surtout la mort ça passe vraiment sous le tapis très rapidement, et donc quand on est encore triste au bout de 6 mois on se dit bah, c'est pas possible, j'ai un problème, alors que bah non, moi mon épisode dépressif suite à la mort de mon père a duré 1 an et demi. Et j'ai énormément culpabilisé parce que je me disais non seulement je souffre, mais en plus je pète l'ambiance, je suis un poids pour tout le monde alors que tout le monde passe à autre chose, les gens ils ont tous leurs petits problèmes, ils ont autre chose à foutre que s'intéresser à mon père qui est mort il y a 1 an, et moi j'arrivais pas à passer à autre chose, et ça m'a vachement fait du bien d'apprendre tout ça et ensuite de pouvoir le transmettre et de rappeler que bah non, c'est pas linéaire et que ça peut prendre plein de formes différentes, que chaque étape peut durer, il y en a une qui peut durer 3 mois, il y en a une qui peut durer 3 ans, qu'on peut revenir à d'autres étapes. C'est le truc qui m'avait rassurée aussi, c'est quand on m'a dit bah oui, il y a des gens qui se disent oui, mais il y a 3 semaines, t'allais mieux. Ouais, il y a 3 semaines, j'allais mieux, c'est vrai. Aujourd'hui, je vais moins bien parce que c'est pas linéaire, c'est pas juste on va d'un point A à un point B et on n'a pas le droit de faire de détour ou de revenir en arrière, quoi.
Marine, toi, est-ce que dans tes attributions de doula, il y a le fait d'accompagner les gens dans leur deuil? Et si oui, comment ça se présente? Est-ce que c'est toujours la même chose? Comment est-ce que tu mets en place un accompagnement sur ce sujet?
Alors oui, j'accompagne beaucoup de personnes endeuillées et chaque deuil est différent. Je n'ai pas un seul, j'en ai vraiment pas deux qui se ressemblent. Et en fait, à chaque fois, l'idée, c'est justement de... Moi, 90% de mon travail, ça va être d'écouter la personne, d'écouter avec bienveillance, sans jugement. Et justement, même si elle est en colère, même si, enfin, il peut se passer, il y a énormément d'émotions qui peuvent passer dans le deuil, et beaucoup de gens se disent « Ah, mais ça, c'est pas normal ce que je vis. » Alors que, comme tu disais, Taous, tout est normal, en fait. Toutes les émotions sont normales, et il n'y a pas un mode d'emploi. Moi, à chaque personne, du coup, l'idée, c'est de déposer. Et puis, moi, je propose des outils d'accompagnement pour aller vers un mieux-être en fonction, en fait, de chaque personne. Il y a des personnes qui vont avoir besoin de créer des rituels. Par rituel, c'est par exemple aller sur la tombe de la personne qui vient de perdre. C'est un rituel. Il y en a d'autres qui vont avoir besoin d'allumer des bougies. Il y en a d'autres. La semaine dernière, j'avais une dame qui, elle, son grand truc, c'était de nager. Et son amie qu'elle avait perdue adorait nager. Et donc, en fait, le rituel qu'elle a mis en place pour penser à son amie et pour lui rendre hommage, c'était d'aller nager dans la mer. Enfin, voilà, chaque cas est vraiment différent. Et il n'y a pas de mode d'emploi. Et en effet, il se passe plein de choses tout au long de la vie par rapport à un deuil.
Tout à l'heure, Taous, tu évoquais la question de deuil pathologique. Daniel, est-ce que tu veux bien expliquer ce que c'est le deuil pathologique et comment ça se manifeste ?
Alors, le deuil pathologique, il faut savoir qu'en fait, dans la science médicale, en psychiatrie, il y a la bible des maladies psychiatriques qu'on appelle le DSM. On est à la cinquième version, c'est quelque chose qui est fait aux États-Unis, donc c'est une version américaine. L'objectif de ce manuel des maladies psychiatriques, c'est de bien diagnostiquer une pathologie, mais ensuite que ce soit reconnu. Parce que la reconnaissance d'une pathologie, ça amène à une prise en charge par les assurances maladies, ce qui n'est pas le cas particulièrement en France. Mais aux États-Unis, si vous n'avez pas de diagnostic, vous n'êtes pas pris en charge. Or, les soins, ça coûte cher. Et donc, si les gens n'ont pas de diagnostic précis, ils ne sont pas pris en charge. Et donc, ça, c'est très problématique. La deuxième chose qui est intéressante, enfin, qui est faite au niveau du DSM, c'est d'essayer de standardiser les choses pour ensuite faire des études à l'échelle mondiale, et que quand un psychiatre du Brésil parle à un psychiatre du Canada et qu'il parle d'une pathologie, on parle à peu près de la même chose. Et donc, pour le deuil pathologique, il y a des choses qui ont été mises en place, qui sont controversées, mais c'est parce que c'est pour ces deux raisons principales aussi que ça a été mis en place. Donc, le deuil pathologique, il est défini au bout de 12 mois. Si la personne a encore beaucoup de sentiments très difficiles par rapport au deuil qu'elle a vécu, c'est-à-dire qu'elle n'arrive pas à parler du défunt, elle pleure beaucoup, elle est beaucoup en train d'y penser toute la journée et qui a un impact sur sa vie quotidienne, sur sa vie relationnelle, sur sa vie professionnelle. Là, on va parler de deuil pathologique et ça peut être pris en charge. Mais comme on l'a dit tout à l'heure, ça peut être très long, un deuil, ça peut durer toute une vie. On peut être endeuillé, on est endeuillé en général toute une vie parce que la personne a disparu et nous, on continue à vivre. Mais ce n'est pas pour autant que c'est pathologique. Là où c'est pathologique, c'est quand ça nous empêche de vivre. Et encore une fois, on peut poser le diagnostic pour être pris en charge dans certains pays pour avoir cette possibilité-là. Donc voilà, c'est à partir de 12 mois, on considère que c'est un deuil pathologique.
Alors même quand on n'a pas vécu de deuil très difficile, on peut avoir peur. Moi, c'est vraiment mon cas. J'ai hyper peur du jour où des gens très très proches de moi vont mourir et que je vais me retrouver projetée dans un deuil. Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire en amont, genre là, maintenant, à partir d'aujourd'hui, pour se préparer à ce que le deuil soit moins difficile, ou est-ce qu'en fait, on ne sait pas, on n'a pas le choix et on verra ? Marine ?
Il n'y a rien qui prépare à un deuil, dans le sens où c'est des émotions tellement fortes. Et le fait, quelque part, d'y penser, enfin, de se dire, comment est-ce que je vais réagir quand quelqu'un va mourir c'est plus, je dirais que, au contraire, ça va plus nous plomber au quotidien. Je dirais qu'il y a déjà tellement de choses à vivre quand on est endeuillé que ça sert à rien non plus de trop prévoir comment ça va se passer, parce que très souvent, c'est un petit peu comme une naissance quand on a un enfant. On peut avoir prévu beaucoup de choses. Dans la réalité, ça se passe jamais comme on avait prévu. Et pour moi, un deuil, c'est pareil. Après, c'est sûr que si on a un proche qui est malade, par exemple, ou un proche vieillissant, forcément qu'on va projeter pour après. Mais je pense qu'il n'y a rien pour se préparer concrètement à la perte d'un proche.
Alors, Taous, dans ton podcast, tu racontes les premières heures après le décès de ton papa, et notamment des choses très réelles, très concrètes. Je pense par exemple à la proximité avec le corps de ton papa. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment tu as vécu ça et ce que ça t'a fait, en fait ?
L'analogie que j'utilise en général pour le raconter, c'est un peu comme quand un enfant trouve un cadavre d'animal dans une forêt. Il y a une curiosité naturelle de vouloir le toucher avec un bâton pour voir si c'est vraiment mort et comment ça fait. Et en fait, moi, ça m'a fait la même chose avec le corps de mon père, parce que c'était la première fois que j'étais aussi proche d'un cadavre, à la fois physiquement et émotionnellement. Et c'était mon mort à moi. Et en plus, comme avec mon père, on avait ce rapport à la mort qui était hyper... romantique, rocambolesque et parfois grotesque et teinté d'humour, je savais que j'étais pas en train de transgresser son intégrité en le touchant, que j'avais le droit et qu'il aurait approuvé. Et donc j'en ai profité pour vraiment faire l'enfant qui trouve un cadavre dans la forêt et qui touche avec son doigt pour voir « Ah, c'est marrant, ça bouge, c'est vraiment mort, ah, c'est froid ». Et à côté de ça, j'ai eu des gestes très tendres aussi qui étaient de le coiffer, parce que j'adorais le coiffer quand j'étais petite. Il a toujours eu les cheveux longs. Et donc, j'ai pris une brosse et je l'ai coiffé. En même temps, coiffer la tête d'un mort, c'est vraiment très bizarre. Donc, j'avais cette espèce de double sensation de « Oh là là, je suis en train de vivre un moment tellement fort avec le corps de mon père. » là, là. Et en même temps, c'est chelou, c'est bizarre et c'est froid et c'est visqueux. Et oh là là, il a plus la même tête que d'habitude. Et en fait, moi, mais c'est mon histoire personnelle, encore une fois, parce que vraiment, c'est impossible d'universaliser une expérience comme celle-là. Moi, ça m'a aidé pour mon deuil d'avoir cette proximité avec le corps de mon père, parce que il y a une espèce de phase étrange quand on est en deuil souvent, qui est le en fait il est pas mort, en fait c'était pas vrai. On fait beaucoup de rêves du mort qui revient et qui dit c'était une blague ou alors t'avais pas compris. Et le fait d'avoir eu ces expériences là avec le corps concret mort de mon père, ça m'a permis dans ces moments-là d'ancrer son décès dans le réel et de me rappeler que non, il est bien mort, je l'ai bien vu, j'étais bien là, il n'est pas parti au Brésil, il ne va pas revenir d'un coup. Et je sais que ce n'est pas, encore une fois, ce n'est pas universel, il y a des gens qui ne peuvent pas se confronter au corps mort et je ne jugerai jamais ces personnes-là. Moi, j'en ai eu besoin et je trouve ça très important que ce soit communiqué et que les gens puissent savoir que c'est une option. Et que si c'est une curiosité qu'ils ont, si c'est un besoin qu'ils ont, c'est un besoin qui est légitime et qui peut être respecté. C'est pour ça que on peut, de toute façon, quand la personne meurt dans sa chambre d'hospice, comme ça a été le cas avec mon père, une fois que les premiers préparatifs sont faits, donc pour fermer les yeux et la mâchoire, on nous ramène dans la chambre et là, on nous laisse passer du temps avec lui. Et après, une fois qu'il est dans la chambre froide, on peut venir le voir quand on veut. Et donc, en France, on a cette chance-là d'avoir cet accès au corps mort jusqu'aux obsèques. Et je pense que c'est important pour les gens de savoir que c'est une possibilité, c'est pas une obligation. Ça veut pas dire que le deuil ne sera pas fait ou pas bien fait s'il n'y a pas cet accès-là aux morts. Mais moi, ça m'a fait vachement de bien. Et aujourd'hui, j'ai même pris une photo de mon père mort et j'en ai parlé dans Mortel. Et depuis, j'ai reçu des centaines et des centaines de messages de gens qui me disaient soit moi aussi je l'ai fait et en t'entendant, ça m'a rassuré, ou alors je t'ai entendu. Après ça, j'ai une personne proche qui est morte et du coup, j'ai pris une photo moi aussi. Et j'ai toujours cette photo, je ne la regarde absolument jamais. Vraiment, mais juste le fait de la voir, ça me fait du bien, parce que je sais que si jamais à un moment j'ai un doute de « non, il est bien mort, j'ai la photo, j'ai la preuve », et je sais que lui, ça l'aurait fait marrer de se voir mort. Parce qu'il y a une anecdote, on avait visité un musée médiéval où il y avait un cercueil en pierre, et il s'était allongé dedans, et il avait fait une photo de lui mort dans ce cercueil, et j'avais pris une photo, et en fait, sur son lit de mort, il est exactement pareil. Et donc je trouve ça trop marrant parce que j'ai deux photos de lui où il joue le mort et une photo où il est vraiment mort et les deux sont pareils. Et donc voilà, mais c'est notre histoire et du coup ça rend cette mort marrante et jolie et ça crée un récit et moi j'avais besoin de ça en fait.
Mais tu parles des premières heures qu'on peut passer avec un mort et moi je me rappelle par exemple juste avant l'enterrement de ma grand-mère, pareil, je me suis retrouvée en famille autour du corps de ma grand-mère et je me souviens d'un moment en fait assez un peu bizarre avec les gens vivants autour de moi où on se regardait un peu. Voilà, on savait pas trop, enfin c'était quand même assez inédit quoi comme expérience et à la fois c'était un moment très fort, un moment dont on se souvient et finalement a posteriori, je me dis, je crois que je suis contente de l'avoir vécu avec eux. Et ça, Marine, c'est un truc dont on a un peu parlé quand on préparait cet entretien, où la mort, ça peut être aussi un moment cool qu'on retient plus tard. En tout cas, quelque chose qui, quand on y pense, on se dit, waouh, c'était un moment fort de mon expérience d'humain, quoi, d'humaine.
Oui, parce que alors forcément, quand on perd un proche, il y a de la tristesse qui est là. Mais en même temps, alors que ce soit dans les enterrements ou même après, alors généralement aux enterrements, c'est des moments assez forts parce que on pleure, mais à la fois on rit très souvent. C'est des moments aussi où on retrouve des personnes qu'on a parfois pas vues depuis des années. Souvent on se dit, faut qu'on se revoie dans d'autres circonstances parce que là c'est triste, mais c'est quand même super de se revoir. Et il y a une sorte de communauté, on va dire, justement, la vie reprend le dessus. À la fois, on pleure le mort, et à la fois, je dirais que l'enterrement peut nous permettre aussi de nous sentir vivants. Et justement, de la mort et l'enterrement peut nous permettre de nous dire, maintenant il faut que je profite parce que justement la personne est décédée et il faut que je profite de mes proches, il faut que je profite de ma vie. Et du coup, ça peut créer quelque chose de très positif dans la douleur.
Mais est-ce qu'il peut y avoir un peu une culpabilité à se dire « Ah, en fait, j'ai passé un moment chouette, j'ai revu des proches, est-ce qu'on ne peut pas se sentir un peu mal d'avoir passé un peu un bon moment ?»
Ça peut arriver, et puis c'est vrai qu'il y a beaucoup de codes dans les enterrements. Il faut forcément pleurer, enfin il faut forcément, non justement, on se dit mince, est-ce que si je pleure pas c'est grave, ou il faut pas trop pleurer non plus parce qu'il faut pas trop non plus montrer d'émotion. Ça dépend des cultures, mais c'est vrai qu'en France il faut être vraiment dans le juste milieu, être triste mais pas trop, et il faut pas non plus être en poker face. Comme tout ce qui concerne la mort, mais aussi la vie, mais particulièrement justement dans la question de la mort, chaque émotion est bonne. Chacun vit comme il doit le vivre. Et si on n'a pas une vague de tristesse ou si on ne pleure pas à un enterrement, ce n'est pas grave. Et si on passe un bon moment parce que on retrouve des proches ou on va boire un coup ensemble après et puis qu'on rigole, ça fait partie aussi du jeu, ça fait partie du moment, et ça montre que la mort et la vie ne font qu'un, et c'est important aussi.
On évoque un peu la question de justement comment se comporter avec des personnes endeuillées récemment ou plus anciennement endeuillées, parce que j'ai l'impression qu'il y a un peu on sait pas trop comment faire. Et notamment, ça me rappelle, il y a un épisode que Julie Duportail avait fait dans Self Care Ta Mère, qui est un podcast diffusé par Binge Audio, où elle racontait ce truc de elle a vécu un deuil très fort et on lui disait est-ce que t'as essayé le yoga? Donc j'aimerais bien que on s'arrête un petit peu avec vous sur les trucs à faire et à ne pas faire avec des gens qui sont confrontés au deuil. Vos conseils?
Apporter à manger. Ouais, moi c'est vraiment le truc qui m'a manqué, parce que j'ai été bercée aux séries américaines où en fait quand il y a un mort, il y a tout le monde qui vient avec des gratins, et moi j'ai pas eu de gratin et ça m'a énervée parce que j'avais pas la force de me faire à manger, j'étais dépressive au possible, j'avais envie de crever, de rejoindre mon père, c'était le seul truc qui m'intéressait, et personne me faisait à manger et tout le monde disait fais-moi un gratin et j'arrêterai de râler, au moins j'aurai la bouche pleine. Donc voilà, c'est, et après autre conseil qui je pense est plus général, c'est demander à la personne de quoi elle a besoin, parce qu'il y a des moments où on dira juste je sais pas, et c'est pas grave de pas savoir. Et en fait je pense qu'on a ce truc, ce réflexe de quand quelqu'un va pas bien, que ce soit pour un deuil ou pour autre chose d'ailleurs, c'est, il faut apporter quelque chose, il faut servir à quelque chose. Et moi, j'ai un code avec mes meilleurs amis qui est quand on se confie quelque chose de difficile, avant de réagir, on dit toujours « Est-ce que tu veux mon avis ? Ou est-ce que tu veux juste que je t'écoute ?» Et je pense que dans le deuil, l'avis, on peut se le foutre au cul de base. Y a pas de « Qu'est-ce que tu veux donner comme solution ?» Ressuscite-le, je sais pas. Arrête de pleurer, t'es triste, stop. Donc je pense qu'il y a vraiment besoin d'être écouté. Et une personne qui est endeuillée va se répéter beaucoup. Raconter sans arrêt la même histoire, trouver des signes partout, trouver son défunt partout, voir des connexions partout, alors qu'il n'y a rien du tout. Et au lieu de dire, oui, bon là, tu cherches un peu, tu dis, oui, je cherche en fait, parce que je suis perdue. Et je suis sur une île toute seule, j'ai plus d'amarre, j'ai plus rien. Donc oui, je cherche un peu. Et j'ai besoin que tu valides en disant, oh, waouh, c'est fou, ah, ça doit te faire du bien. Ouais, ça me fait du bien, merci, stop. Voilà, c'est tout.
Marine.
Oui, c'est vrai que souvent, alors c'est très humain de faire ça, quand quelqu'un ne va pas bien, on a envie qu'il aille mieux. Donc on essaye de lui dire des phrases pour qu'il aille mieux, avec des phrases assez bateau, justement, très souvent entendues par les endeuillés, c'est « il est dans un monde meilleur » ou « au moins maintenant il ne souffre plus », enfin voilà, ou « t'inquiète pas, ça va aller mieux bientôt ». Non, en fait, très souvent, les personnes qui sont endeuillées n'ont pas envie d'être n'ont pas envie forcément d'aller mieux, parce que c'est pas le sujet. Ils n'ont pas envie d'être consolés. Le besoin très souvent, c'est d'être écouté. Et voilà. Et pour moi, alors encore une fois, il y a pas de recette miracle, mais la meilleure chose à faire pour une personne endeuillée, c'est d'être disponible et de lui dire, si tu as besoin de moi, je suis là. Et en effet, proposer des choses concrètes comme apporter des plats, des choses comme ça. Mais surtout, s'il vous plaît, n'essayez pas de consoler la personne. C'est contre-productif parce que généralement, la personne endeuillée va se replier sur elle-même en se disant « mais en fait, ça sert à rien, c'est pas, là, j'ai pas besoin d'être consolée, j'ai juste besoin d'être écoutée ». C'est ça le plus important, écouter.
Effectivement, hein, c'est un petit peu comme on l'avait déjà vu dans un épisode ici sur la dépression. On est le deuil, c'est un stade quasiment assez proche de la dépression, sauf que on a une origine, on comprend un petit peu d'où est-ce que ça vient, cette grande tristesse, ce sentiment de vide qui nous submerge. Donc l'idée, c'est de faire exactement la même chose, c'est-à-dire d'écouter la personne et de demander où est-ce que tu en es dans ton deuil et comment est-ce que je peux t'aider. Et puis voilà, et c'est tout, on n'a pas besoin d'essayer d'inventer l'eau chaude ou de faire quoi que ce soit pour essayer de rassurer la personne. Non, on a juste à l'écouter.
Et je voudrais juste rajouter quelque chose. Très souvent, il y a la problématique aussi de ne pas oser parler de la personne qui est décédée, de pas ni prononcer son nom, ni parler d'elle. Et sachant qu'une personne endeuillée, généralement, pense tout le temps à la personne qui est décédée. Donc le fait de la nommer, le fait de parler d'elle, même de raconter des anecdotes, c'est quelque chose qui peut faire aussi beaucoup de bien. Et voilà, et surtout, il ne faut pas avoir peur de prononcer le prénom, d'en parler, parce que souvent, c'est des choses qui font du bien aussi à la personne endeuillée.
Mais parce que c'est vrai qu'on peut se dire, oh, si ça se trouve, elle n'est pas en train de penser à ça et je vais la remettre dans son deuil. Ça peut être un peu difficile, du coup, prendre cette décision, de prendre le risque de remettre la personne dans ses difficultés, quoi.
Oui, après, chacun fait comme il le sent, mais encore une fois, très souvent, une personne endeuillée pense tout le temps à la personne qu'il a perdue. Donc, c'est pas parce qu'on va lui en parler que d'un coup, il va y repenser.
Alors, j'ai l'impression que souvent, c'est des histoires qu'on m'a relatées de personnes qui vivent des deuils très durs. Je pense par exemple à des décès d'enfants, malheureusement, ou ce genre de choses. Et qui, en fait, ça fait partie de leur vie, ça fait partie de leur expérience. Et en même temps, c'est très difficile d'en parler parce que, voilà, je sais pas, on va être dans un resto et on va raconter le drame qu'on a vécu. Et tout à coup, tout le monde va se glacer un petit peu, va pas savoir comment répondre. Et à la fois, j'ai l'impression que c'est une violence de plus que de ne pas pouvoir raconter les deuils qu'on a vécu. Donc, comment est-ce que on fait pour accueillir ça au mieux?
Ouais. Pour c'est-à-dire tu parles
par exemple t'as vécu enfin quand t'es dans une conversation et que quelqu'un te dit moi j'ai perdu deux enfants par exemple, comment on fait pour se comporter de façon à ce que la personne elle ait peut-être la place d'en parler et à la fois que ce soit pas bizarre, enfin c'est parce que finalement c'est des situations qui arrivent et je crois qu'ils nous prennent toujours de court.
Tout dépend de la personne qui est en face. Je n'ai pas de réponse préfaite là-dessus, mais je dirais que ce que je pourrais donner, on va dire, comme roue de secours pour une situation comme ça, c'est l'écoute bienveillante. C'est-à-dire que quelqu'un va parler de son enfant qui est décédé et de répondre à... Si on n'est pas au courant, par exemple, « Ah, tu as des enfants, tu as cet enfant... » Enfin, rebondir, en fait. « Ton enfant est décédé et poser des questions, pas forcément sur le décès, mais sur son enfant. Comment est-ce qu'il s'appelait? Comment est-ce qu'il s'appelle, d'ailleurs? Ne pas parler au passé. Comment est-ce qu'il s'appelle? Enfin, voilà, d'ouvrir la conversation. Et puis, si la personne a envie de la fermer, elle la ferme. Et si elle a... <C'est> pas... elle ferme la conversation, pardon. Et si elle a envie d'en parler, ça lui laisse l'espace pour en parler aussi. Mais il n'y a rien de pire que quelqu'un qui te dit « Ah bah... mon enfant est décédé », et puis de dire « Ah bah, d'accord », et de passer à autre chose, en fait, et de pas faire résonner ce qui vient d'être dit. Donc voilà, de dire que tu as bien entendu et d'ouvrir l'espace, et si la personne veut prendre l'espace, elle la prend, et si elle ne veut pas, la conversation suit son cours.
Effectivement. Alors, la petite astuce que je dirais, c'est de poser des questions, en fait. Donc on écoute, et ensuite on pose des questions. Si la personne a envie de parler des choses, de raconter des choses, elle va répondre aux questions, sinon elle va dire non, en fait, j'ai plus envie d'en parler. Nous, en tant que psychiatre, on a assez l'habitude, par exemple, avec les idées suicidaires. C'est quelque chose de très similaire et à beaucoup d'entretiens, on parle, est-ce que vous avez des idées suicidaires? C'est pas parce que vous parlez de vos idées suicidaires qu'elles vont tout à coup surgir beaucoup plus, parce qu'en fait, si vous en avez, elles sont dans votre tête. Donc si je vous en parle, ça va pas les faire surgir. Si vous en avez pas, vous me dites non, j'en ai pas. Si vous en avez, on en parle, je en discute avec vous et vous me dites plein de choses sur les projets, sur la date ou sur quoi que ce soit. Et moi, ça va m'apporter des éléments et ainsi de suite. Et donc là, sur le deuil ou sur la personne décédée, c'est de poser des questions. On s'intéresse comme si on nous présentait une nouvelle personne. Ah ben tiens, j'ai mon grand-père qui est décédé ou j'ai mon frère qui est décédé. Ah ben, comment il s'appelle? Qu'est-ce qu'il fait? Et ainsi de suite. Et on en discute. Et puis si la personne n'en a plus envie d'en parler, elle va arrêter toute seule.
Oui, je pense qu'on peut rassembler déjà tout ce qui vient de se dire. Moi, j'ai un super pouvoir qui est que les gens se confient facilement à moi. Alors, quelqu'un que j'ai rencontré depuis un quart d'heure va me raconter le truc le plus dark qui lui est arrivé. Je ne sais pas pourquoi j'attire ça, mais je l'attire. Et j'ai accepté que c'était ma vocation d'être un réceptacle, un truc de « Oh là, ok !» Comme je peux l'encaisser, je me dis « Bon, bah voilà, c'est, moi, ça ne me fait pas de mal d'entendre ces histoires-là, donc je les écoute. » Et le truc que j'ai développé pour ne pas me retrouver bête à chaque fois qu'on me sort quelque chose, c'est effectivement d'écouter, de poser des questions. Et l'astuce que j'ai, c'est quand quelqu'un, enfin, c'est de répéter une partie de, enfin, un bout de ce que la personne vient de me dire et de le transformer en question pour être sûr de pas poser de questions sur un truc qui n'a pas été abordé, pas mettre les pieds dans le plat et juste faire une espèce de continuité. Donc, je saurais pas donner d'exemple parce que j'en ai absolument pas, mais c'est dans une conversation, naturellement, les gens donnent des éléments et rebondir sur un élément qui a déjà été donné pour pouvoir créer un fil sans dire, sans sortir un truc du tiroir qui avait pas du tout l'intention de sortir. Donc, voilà, mais ça a fait ses preuves et je vois que bah, parfois il y a des gens qui me remercient en me disant bah, je me rends compte que je suis désolée, je t'ai balancé ça, mais je crois que j'avais juste besoin d'en parler et d'être écoutée. Bah, ok, allons-y.
C'est justement ça le principe de l'écoute bienveillante, c'est-à-dire qu'on va écouter, mais en plus on va montrer à la personne qu'on a écouté ce qu'elle vient de nous dire en répétant certains éléments de ce qu'elle vient de nous dire. Donc ça veut dire que oui, je t'écoute, mais...
Salut, c'est Victoire Tuaillon. Ces derniers mois, avec mon équipe, on a travaillé sur une série exceptionnelle. Ça s'appelle « 20 000 lieues sous ma chair ». L'autrice, Caroline Potier, a exhumé des cassettes audio qu'elle enregistrait pour sa meilleure amie lorsqu'elles étaient ados et qu'elle traversait l'enfer, les violences que lui infligeait son père. À partir de son histoire, Caroline Potier, devenue journaliste, a mené l'enquête. Comment on pourrait éradiquer l'inceste? C'est beau, c'est intelligent, c'est bouleversant et je pèse mes mots, c'est d'utilité public. Pour continuer à sortir de l'océan du déni, écoutez 20 000 lieues sous ma chair, dans le cœur sur la table.
En plus, je m'intéresse à ce que tu viens de dire, puisque je le répète, donc je l'ai entendu et j'ai pas juste hoché la tête, puis Dieu.
Alors, outre la question du deuil, j'aimerais qu'on parle un petit peu plus de la question de la peur de la mort et la peur de la fin de vie. On s'en parle dans un instant. Dans cet épisode d'Encore Heureux, on se questionne sur la mort avec Taous Merakchi, Marine Nina Denis et Daniel Batoula. La peur de la mort, elle peut ne pas être là. Enfin, on peut avoir peur que la mort émerge tout à coup dans notre vie. Et parfois, on peut ne pas du tout avoir peur de la mort et tout à coup se mettre à avoir peur de la mort. Et Taous, toi, c'est ce que tu racontes. Tu es devenue maman récemment et tu as découvert en fait la peur de la mort un peu sur le tard, il faut bien le dire.
J'étais très heureuse, je me vantais partout, j'en ai même parlé justement dans Mortel. J'étais très heureuse de dire que j'avais jamais eu peur de la mort et que j'avais pas peur de la mort, et puis je suis devenue maman. Et 10 mois après la naissance de ma fille, on m'a diagnostiqué un cancer du côlon. Aujourd'hui, je suis en rémission, tout va bien, ma fille va bien aussi. Elle est née en plus avec 2 mois d'avance dans une ambiance catastrophique. Donc en l'espace d'un an, j'ai frôlé la mort, ma fille a frôlé la mort, et je me suis retrouvée confrontée donc, à des morts qui étaient moins naturelles que celles de mon père. Et je me suis rendu compte que quand on m'a donné ce diagnostic, que bah, si c'était arrivé 19 mois plus tôt, j'aurais été plus à l'aise. Alors pas non plus « Ouh, détente, youpi, je vais mourir d'un cancer », c'est chambé, c'est exactement ce que j'avais prévu, surtout à cet âge-là. Mais j'aurais été plus détendue sur... Alors que là, j'avais un enfant qui ne me connaissait pas encore, parce qu'à 10 mois, bah, je suis une entité floue. Mon mec, en pleurant, m'a dit « J'ai pas envie qu'elle te connaisse qu'à travers nos souvenirs. » Et ça, vraiment, si mon cancer m'avait pas déjà démoli le ventre, ça l'aurait fait. J'étais par terre. Je me suis dit « En fait, moi non plus. » Et j'ai découvert ce que c'était d'avoir peur de la mort. Et après, bah, par extension, évidemment, j'ai peur que mon enfant meure. Donc ça, voilà, c'est deux trucs où j'étais pas prête à faire face à ça. Et ça m'a bêtement fait une blessure d'ego. parce que j'étais tellement fière de dire « mais j'ai pas peur de la mort, moi demain je meurs, j'en ai rien à foutre ». Et là, d'un coup, j'avais très très peur. Et donc j'ai ce tatouage de crâne sur le bras que j'ai fait bien avant toute cette histoire-là. Notamment, il est très mignon, il a une petite tête toute mignonne parce que c'était pour mon rapport à la mort qui a toujours été un rapport très mignon. Et quand j'étais sur le brancard en route vers le bloc opératoire pour me faire enlever ma tumeur au côlon, l'anesthésiste essayait de me changer les idées, donc il me parlait de mes tatouages, il me dit « Ah, ça, c'est pourquoi ? C'est parce que j'ai pas peur de la mort !» Et en fait, j'étais justement en train de me dire « Eh ben là, peut-être que je me réveille pas, et peut-être que ma fille me connaîtra jamais, et c'est horrible. » Et donc voilà, ça a été tout un apprentissage avec lequel je suis encore en train de me débattre, parce que de temps en temps, il m'arrive un truc où je me dis « Oh, ça se trouve, je vais mourir là !» Et ma première pensée, c'est de me dire « Bah... » Et après, j'ai le visage de ma fille, je me dis « Oh non, non, j'ai pas envie !» Et c'est voilà, c'est découvrir la peur de la mort sur le tard, c'est nul.
Et un peu dans ces nouvelles choses qui nous projettent un peu dans la peur de la mort, moi, je me suis rendu compte que j'ai eu tout à coup, quand j'ai pris conscience des enjeux climatiques de ce monde, bah, j'ai eu ça en fait, le truc de tout à coup, j'ai peur de mourir dans un ouragan climatique. Est-ce que le changement climatique, les transformations environnementales terribles qui nous attendent, est-ce que pour vous, elles ont un peu changé le rapport à la mort ?
L'épidémie de Covid-19 a changé le rapport à la mort qu'on a, parce que c'est une épidémie mondiale qui est arrivée et on a vu plein de gens décédés, des jeunes, des moins jeunes. La mort, c'est censé arriver à un certain âge, c'est censé arriver aux personnes âgées, une mort naturelle. Quand ça arrive à des jeunes parents, à des enfants, c'est beaucoup plus tragique, beaucoup plus difficile à envisager, à imaginer et à vivre. Et donc là, quand on a une épidémie avec plein de gens qui meurent, waouh, ça met un gros coup. Et donc maintenant, on a beaucoup plus conscience du fait que y a une énorme fragilité qui peut survenir. Et avec les catastrophes climatiques qui peuvent arriver et avec d'autres épidémies qui peuvent arriver, je pense que le niveau d'anxiété face à la mort a augmenté.
Et est-ce que justement, ça ne peut pas être source de mise en mouvement, une sorte d'éco-anxiété poussée à l'extrême qu'on peut peut-être transformer en un carburant pour se battre, justement parce qu'on n'a pas envie de mourir dans un cataclysme en fait?
Il y a beaucoup de choses qui ont été mises en place justement depuis l'épidémie, notamment dans le domaine du funéraire et dans tout ce qui entoure la mort, notamment, du coup, j'en suis l'exemple des gens qui commencent à s'intéresser justement à comment accompagner au mieux la mort pour éviter justement ce qui s'est passé pendant le Covid, des familles qui ne peuvent pas dire au revoir, des gens qui meurent seuls. Et voilà, donc il y a beaucoup, notamment, voilà, le métier de Tanadoula a explosé à moindre échelle. Moi, quand j'ai commencé en 2021, on était 4, je pense, en France. Aujourd'hui, on est plusieurs dizaines sur tout le territoire. Mais même, je pense que le rapport d'accompagnement est différent et les gens se renseignent peut-être plus aussi. Il y a pas mal d'initiatives qui sont nées suite justement au Covid qui font que, alors, ça n'empêche pas la mort, mais en tout cas, ça permet de l'accompagner, de le faire plus en conscience et de mieux informer les gens sur la mort. Et au final, plus on connaît quelque chose, moins on en a peur. Et ça, c'est essentiel aussi. Et mieux on est accompagné, moins on a peur aussi. Et c'est important.
Et est-ce que déjouer un peu cette peur de la mort qui frappe par hasard, ça peut pas être fait en prenant ces dispositions? Par exemple, moi, je me suis rendu compte qu'avec mes proches, maintenant, j'avais des conversations de type « Alors, est-ce que tu vas être enterré ?» ou plutôt « Voilà, est-ce que tu veux donner tes organes ?» ou pas. Enfin, voilà, des conversations hyper bonne ambiance, mais qui à la fois sont de l'ordre du concret, du réel, quoi. Est-ce que pour vous, ça aide ce genre de choses, Taos ?
Ah oui, c'est vraiment un des trucs qui m'a été le plus recommandé quand j'ai commencé à m'intéresser au sujet, c'est dire aux gens, avoir les conversations pas marrantes avec ses parents, avec ses proches. C'est comme ça que j'ai appris d'ailleurs que j'étais sur le testament de ma meilleure amie. Des sentiments conflictuels, parce qu'elle a beaucoup d'argent, et du coup je me dis bon, mais quand même je l'aime bien. Et je le vois dans les familles où ça ne communique pas, mais où la santé commence à flancher, il y a une espèce de flou artistique de mais du coup si ça arrive, qu'est-ce qui se passe ? Je sais pas. Et en fait, quand on ne sait pas, c'est le bordel. Et parce que vraiment, quand on vit un deuil, le dernier truc sur lequel on a envie de se concentrer, c'est l'administratif et essayer de découvrir si la personne voulait être incinérée et ou comment et machin. Et j'ai la chance d'avoir eu un père qui était donc fasciné par la mort. Donc forcément, ça, lui, avant ma naissance déjà, il avait tout planifié. Il refaisait régulièrement ses dernières volontés, qu'il me faisait signer chaque nouvel exemplaire. Enfin bref, c'était notre petit rituel. Je crois que j'ai signé ses dernières volontés pour la première fois, je devais avoir 8 ans.
Mais n'empêche que, bon, voilà, quand il est mort, tout était prévu, tout était planifié, tout était nickel, je savais exactement ce qu'il fallait que je fasse, et ça m'a enlevé une charge énorme, parce que bah, je n'avais pas l'espace mental pour m'occuper de ça. Et donc, depuis, j'ai ces conversations avec les gens qui m'entourent et qui potentiellement seront confrontés à ma mort ou à la mort de qui je serai confrontée. Ouh, syntaxe compliquée. Et je... Bah, je pense que ça aide aussi, on parlait tout à l'heure de préparation, évidemment on ne peut pas se préparer à la charge émotionnelle d'un deuil, mais si on peut déjà se dégager ça, c'est une bonne part du boulot qui est faite. Quoi.
Donc c'est quoi concrètement? C'est comment est-ce qu'on veut être enterré ou pas? Est-ce qu'on veut faire des dons d'organes? Peut-être la question de l'héritage quand il y a un héritage aussi, j'imagine. Marine, toi, en tant que doula, c'est des choses que tu abordes, c'est cette dimension concrète des choses?
Oui. Moi, j'accompagne beaucoup les familles. Alors, ce qui est important aussi, c'est les directives anticipées. Alors, les hôpitaux en fournissent, mais pour ce qui est médical, mais ce qu'on ne sait pas forcément, c'est qu'en fait les directives peuvent anticiper, on peut prévoir plein de choses dessus. Donc on peut prévoir en effet la question du don d'organes, est-ce qu'on, dans quelles conditions entre guillemets on accepte de terminer sa vie médicalement, mais aussi on peut décider justement à quoi peuvent ressembler nos obsèques, quelles musiques vont être diffusées aux obsèques, qu'est-ce que va être fait de notre corps à la fin, est-ce qu'on va être enterré, est-ce qu'on préfère que nos cendres soient dispersées ailleurs, enfin voilà, on peut mettre en fait plein de choses, et on peut aussi désigner une personne de confiance pour justement mettre en place ces directives anticipées, ce qui est important notamment d'un point de vue médical et aussi pour les obsèques, parce qu'il peut y avoir souvent des problématiques au niveau des familles, il y en a qui veulent organiser ci, organiser ça, les directives anticipées priment, et cette personne de confiance n'est pas obligée d'être une personne de la famille, ça peut être un ami, ça peut être un proche, ça peut être aussi quelqu'un d'extérieur comme par exemple une doula de fin de vie c'est important de préparer ça. Et il n'y a pas besoin de les déposer chez un notaire ou quoi que ce soit. Juste le fait de les avoir écrits, que la personne de confiance sache où elles sont, c'est ça qui fait foi. Et puis aussi, en effet, parler, ce que tu disais, Taous, parler de parler à ses proches, crier sur tous les toits, tout ce qu'on veut, ça évite, on va dire, et la charge mentale pour les personnes qui organisent des obsèques, et à la fois, nous, de savoir que ça va être fait comme nous, on en a envie.
Perso, moi, j'ai déjà fait ma playlist. Je recommande l'exercice, c'est vraiment fun.
Tu pourrais nous la partager sur Spotify.
Moi aussi, j'ai fait ma playlist.
Est-ce que tu as demandé qui a mangé à ton enterrement?
Évidemment. Moi, ce sera une espèce de festin avec un feu de camp et les gens à poil.
Ok.
Genre le festin d'Astérix et Obélix à la fin, pareil, mais en version...
Ça donne bizarrement envie de venir.
Vous serez tous invités.
Vous êtes tous conviés à mes obsèques dans très, très, très longtemps.
Alors, il y a une mort dont le deuil est souvent moqué, et t'avoues, t'en parles dans ton podcast, et ça m'a fait vraiment plaisir, c'est la mort de nos animaux. Toi et moi, on a un chat, bon, pas le même, on a chacune un chat, et qu'on adore, et moi, j'ai vraiment très très peur de la mort de mon chat, je me dis que ça va être horrible, je m'y prépare, et un truc que je ne supporte pas, c'est quand les gens me disent « Oh, mais elle a 12 ans, c'est pour bientôt, c'est terrible. » Donc j'aimerais qu'on parle un instant de ça, en deux mots, qu'est-ce qu'on fait? Arrêtez de nous prendre la tête avec la mort de nos animaux, et surtout, rappelons-nous que on peut avoir un deuil très fort vis-à-vis de nos animaux, enfin un animal qui meurt, qui a un élément hyper important dans notre vie, ça peut être douloureux en réalité.
Mais c'est vrai, c'est cette question de parler de l'âge, vraiment, c'est comme si tu te dirais, je suis allée au ciné avec ma grand-mère, ah ouais, elle a quel âge? 87. Ça va pas, non? Et en plus, vraiment, mon chat, c'est mon premier enfant, donc ça ne va pas le faire. Mais oui, il y a un manque de respect total du deuil de l'animal que je comprends dans l'absolu. Mais quand on a eu un lien avec un animal dans sa vie, je ne comprends pas qu'on se dise « Ah ouais, c'est pas grave, ça va passer. » Ce n'est pas le hamster que tu as eu pendant 3 semaines et sur lequel tu t'es assis sans faire exprès quand tu avais 5 ans. Quoi. C'est vraiment, en plus, un chat que tu as eu pendant plus d'une décennie. Ah, je vais pleurer. J'ai parlé de mon cancer, de mon père, rien à foutre. Mon chat, par contre, ah
Marine.
Ouais, mais justement, il faut vraiment en parler du deuil animalier. C'est quelque chose de très important parce que c'est une douleur qui peut être tout aussi intense que de perdre un humain. Et Et souvent, en effet, c'est pas forcément reconnu dans la société par les gens. Et moi, en tant que Tanadoula, j'accompagne des animaux en fin de vie, j'accompagne des gens endeuillés aussi par leurs animaux. Et c'est important de savoir aussi qu'on peut être accompagné. Et aujourd'hui, ce que souvent les propriétaires d'animaux ne savent pas forcément, c'est qu'il y a des pompes funèbres pour animaux ou qui peuvent organiser des moments un peu comme avec des humains. Où en fait on peut, moi d'ailleurs ça a été le cas pour mon chien l'année dernière, mon chien est décédé et j'ai pu aller lui rendre visite au crématorium, j'ai passé un moment avec lui, ils avaient mis des petits feutres d'ailleurs, ils avaient mis des petits feutres, j'ai pu dessiner sur son cercueil, lui dire au revoir et j'ai assisté à son entrée dans le four pour la crémation et c'est quelque chose qui m'a fait un bien fou. Tu pleures Taous.
Taous c'est...
Et c'est quelque chose qui m'a fait un bien fou, dont autant de bien que quand j'ai perdu des proches humains et dont j'avais besoin. Et voilà, et c'est très important de légitimer la douleur qu'on peut ressentir quand on perd un animal.
Et pour, je rajouterai encore, hein, pour mes collègues ou pour les autres personnes qui sont des thérapeutes, quand vous parlez à des patients et quand vous demandez les personnes de leur famille, pensez à demander leurs animaux aussi. Moi, dans mes observations, il y a le nom des animaux qu'ils ont. Et effectivement, quand j'ai rencontré un malade la semaine dernière, on a discuté qu'il allait mal, il a été amputé et il avait perdu son chien il y a 3 semaines avant. Et en fait, c'était... Ben oui, il a été amputé de sa jambe, mais en fait, le décès de son chien, c'était là où il s'est effondré totalement et j'ai senti que c'était là le deuil qui posait le plus problème. Son moignon, ben, il savait que ça allait arriver parce qu'il était diabétique, mais là, son chien, c'était vraiment quelque chose de très, très marquant et donc je pense que c'est très important d'en parler et de ne pas minimiser ce genre de choses.
Alors, dans la peur de la mort, il y a aussi la peur, je pense, de la fin de vie, du mal mourir. Et aujourd'hui, ces temps-ci, le débat sur la fin de vie est relancé, sur la question de l'euthanasie, du suicide assisté. C'est des débats qui, je pense, sont assez sensibles pour beaucoup de personnes. Taous, tu as fait un épisode entier sur le sujet, sur la question de la fin de vie, sur est-ce que on devrait faire en sorte que la loi nous permette de mourir plus facilement si on le décide. Aujourd'hui, c'est quoi, en deux mots, ta position sur la question ?
J'en ai plus.
Ok.
Vraiment, ma position a beaucoup évolué sur la question. Pardon, je suis encore sur les chats morts. Je veux bien. Quand j'ai commencé à penser à la question de l'euthanasie, quand j'avais une 20aine d'années, je me disais, oui, c'est une évidence, il faut. Après, j'ai rencontré des gens qui ont travaillé aux soins palliatifs, j'ai rencontré des soignants, j'ai rencontré des gens endeuillés qui ont eu des personnes à qui on a donné un diagnostic terminal et qui, en fait, se sont retrouvés à vivre des derniers mois super en soins palliatifs, alors qu'à l'origine, ils s'étaient dit, dès que j'ai le diagnostic, je meurs. Donc ça m'a fait changer d'avis. Et là, maintenant, il y a des débats sur elle est où l'égalité là-dedans ? Parce qu'on ne meurt pas tous de la même manière, on n'a pas tous droit aux mêmes choses. Et donc forcément, ça va servir, ça va être une espèce de forme d'eugénisme dans la mort où on va dire, les pauvres, les noirs, les arabes, on s'en fout. Voilà. Et on va faciliter cet accès à une fin de vie correcte pour les personnes qui ont les moyens ou qui correspondent aux critères. Donc, il y a tellement de facteurs que même la personne que j'ai... Alors, je ne sais pas où elle en est aujourd'hui. La personne que j'avais interviewée, qui avait décidé d'aller en Suisse...
Jacqueline Jenkel, voilà. Qui en 2020 avait fait beaucoup parler d'elle parce que c'était quelqu'un qui avait environ 70 ans, qui était en très bonne santé, qui n'avait pas de pensée suicidaire et qui avait décidé d'aller en Suisse pour mettre fin à ses jours parce qu'en gros, elle disait qu'elle n'était pas intéressée par
c'est
le 4e âge.
Voilà. Et donc... Quand je l'ai interviewée, donc c'était en 2019 que je l'ai interviewée, elle était censée mourir l'année suivante. Et en fait, elle a changé d'avis. Donc je ne sais pas où elle en est aujourd'hui, mais j'ai, genre 2-3 ans après, j'ai vu que finalement, elle avait dit « Moi, non, je vais continuer à rester en vie ». Donc je pense qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de travail à faire là-dessus. Je n'ai pas d'avis. Je pense que c'est difficile d'avoir un avis.
Il me semble que ce qu'elle disait et qui était hyper intéressant, c'était que, en fait, si aujourd'hui on pensait la fin de vie différemment que, par exemple, c'est dans ça. Des EHPAD absolument sordides, peut-être qu'en fait, on serait pas tant intéressé par l'idée de mettre fin à nos jours plus vite.
C'est le truc que j'ai découvert en fait en penchant sur la question, c'était que la question n'était pas de oh là là, j'ai pas envie d'agoniser et de que ma mort dure trop longtemps. C'est en fait les conditions dans lesquelles on meurt quand on a un diagnostic problématique sont tellement atroces qu'évidemment, on n'a pas envie de ça, on n'a pas envie de souffrir, on n'a pas envie de voir les gens souffrir. Sauf que quand on est bien pris en charge, il y a plein de gens, et justement, j'en avais parlé aux gens qui travaillaient aux soins palliatifs quand j'ai fait Mortel, il y a ce que tu disais tout à l'heure, dans la mort, il y a des joies immenses. Et les employés des soins palliatifs me disaient, on a célébré des naissances, on a célébré des mariages, on a célébré des anniversaires, il y a eu des fêtes incroyables de gens qui étaient persuadés qu'ils allaient mourir dans la semaine et qui ne voulaient pas rester plus longtemps et qui, en fait, 6 mois plus tard, étaient là en train de se dire « Oh !» Encore 3 mois de plus, franchement, je les prends, hein, pas de problème.
Alors, tu me tends une perche sur la question de la joie dans la mort. Et Marine, toi, tu organises des apéros de la mort. Donc, pour le coup, quand j'ai appris ça, j'étais un peu OK, bizarre. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste ?
Alors, les apéros de la mort, alors, sachant que c'est porté par une association qui s'appelle Happy End, et ça se passe un petit peu partout dans toute la France. Et donc, moi j'anime les apéros qui se passent à Nantes. Et en fait, c'est un espace, on se retrouve dans un bar, on commande des verres, et puis tout le monde peut venir, qu'on soit endeuillé ou pas, ou juste qu'on a envie de parler de la mort, qu'on se pose des questions. Et l'idée, en fait, c'est pendant 2 heures, on parle de la mort librement. L'idée, c'est vraiment de détabouifier le sujet, et puis voilà. Donc, alors, c'est sûr qu'on pleure, mais on rit aussi. Mais l'idée, c'est vraiment de pouvoir libérer la parole. Et pour des gens, très souvent, en fait, les gens qui viennent aux apéros disent, je peux pas en parler à mes proches. Alors, soit c'est parce qu'ils ont perdu quelqu'un et qu'ils ont pas forcément de résonance autour d'eux, soit c'est parce qu'ils ont envie de parler de la mort, qu'ils ont envie de parler de la fin de vie, leur propre mort ou celle d'autres personnes. Et voilà. Et l'idée, en fait, c'est vraiment d'ouvrir des espaces de parole libre où chacun puisse s'exprimer, où les gens puissent échanger sur ce sujet pour parler de ça.
Est-ce que vous pensez que culturellement, on pourrait faire en sorte d'avoir, notamment dans le cadre des funérailles, une meilleure ambiance. Je vous dis ça parce que récemment, j'ai assisté à des funérailles dans le village où j'habite et il se trouve que la personne, l'époux de la personne qui était décédée, a fait venir des musiciens, on a organisé des concerts, on a fait un banquet. Il y a eu des moments hyper drôles, il y a eu des moments hyper forts on nous avait demandé de venir habiller de toutes les couleurs. Enfin, il y avait vraiment cette idée de que ce soit une fête, une bonne ambiance, mais à la fois, moi, j'avais l'impression de faire un truc super transgressif. Est-ce que vous croyez qu'aujourd'hui, la société est prête à faire en sorte que, voilà, on mette de l'ambiance dans le trépas?
C'est difficile d'aller contre la culture, mais ça ne veut pas dire qu'elle ne peut pas évoluer. Et moi, je sais que ma famille maternelle est d'origine algérienne, et donc les enterrements chez nous, c'est des fêtes. C'est peu importe qui on l'enterre, pourquoi on l'enterre, on a toujours réussi à faire des gros stuff. Quand on a enterré mon grand-père, on a dansé autour de sa tombe, et il y avait tous ses voisins blancs qui étaient autour de nous, en disant oh, ils sont marrants ces gens-là. Et en fait, après, on loue une salle des fêtes et on fait un couscous pour tout le monde, et c'est ultra cliché, mais c'est notre culture de quand il y en a pour un, il y en a pour 10, et quand il y en a pour 10, il y en a pour 50. Et pour les enterrements, nous, c'est ouvert. C'est vraiment, si tu as envie de pleurer cette personne, si tu as été atteint par ce décès-là, viens avec nous, on va t'accueillir et on va te nourrir. Après, si tu nous manques de respect, t'as 40 Algériens sur le dos, je peux te dire que t'as intérêt à courir vite, mais c'est déjà arrivé. Mais globalement, l'idée est de célébrer, de faire la fête, de s'amuser. Et nous, on met la musique à fond dans le cimetière et on danse et on s'éclate. Et je vois toujours cet écart quand on a des personnes qui ne sont pas de cette culture-là, qui sont avec nous aux enterrements, il y a toujours ce truc de « oh ». Mais rapidement, les gens se prennent au jeu et à la fin, ils viennent tous nous voir en disant « c'est la première fois que je vais à un enterrement comme ça et en fait, vous avez grave raison, c'est vraiment plus fun ». Ce qui ne veut pas dire que ça doit être la norme, parce que je pense qu'il y a des deuils qui sont… Enfin, il y a des gens qui n'ont pas du tout envie de faire la fête, qui n'ont pas envie de rire et qui ne le supporteraient pas, pour qui ce serait une insulte. Soit, respectons-le, mais que ce soit une possibilité et que ce soit un peu plus ouvert, pourquoi pas ? Après, comment le mettre en place, ça, je ne sais pas. Je sais juste que c'est comme pour tout, je pense que la représentation aide à la réalisation et que plus on voit d'options différentes, plus on se dit « Ah tiens, je ne savais pas que ça existait, je vais l'essayer ». Et donc, c'est important d'en parler, c'est important de montrer d'autres choses, montrer qu'on peut faire d'autres enterrements que, comme ils sont toujours dans les films habillés tout en noir avec leur parapluie, c'est toujours une averse incroyable pendant les enterrements. Et puis, on peut aussi danser sous la pluie.
D'autant que j'ai l'impression qu'on peut faire cohabiter cette ambiance de fête avec le fait de pleurer sincèrement. Et d'ailleurs, pour moi, c'est l'un des choses les plus incroyables quand j'ai découvert qu'en fait, dans les enterrements, pleurer avec d'autres personnes, c'était aussi un moyen de resserrer très fort les liens, d'humaniser les autres. Et en fait, on en ressort plus proche parce qu'on a fait tomber en quelque sorte ce masque social qu'on porte en permanence. Donc, il y a quelque chose de profondément transformateur et assez beau, il me semble.
C'est ce qu'on retrouve dans l'être humain est confronté à la mort depuis qu'il vit. Et en fait, dans toutes les sociétés, quand il y a un deuil, qu'est-ce qui se passe? Les gens se réunissent. Ils se réunissent, ils vont pleurer tous ensemble, ils vont être habillés tous en noir parce que c'est les codes sociaux, ils vont faire la fête, ou ils vont faire plein de choses, faire l'amour, ou faire plein d'autres choses. Et en fait, c'est juste que l'important, c'est de se réunir, de se retrouver. Là où on va rentrer dans ce qu'on appelle des deuils pathologiques, où là, ça va être compliqué, c'est quand on se retrouve vraiment tout seul, isolé, et qu'on n'a pas de possibilité d'en parler, donc aller à des apéros organisés par Happy End, on est vraiment isolé, et là, c'est là où c'est beaucoup plus compliqué, parce que tout seul, on ne peut pas faire face à cette charge émotionnelle. Donc si avant tu demandais qu'est-ce qu'on pouvait faire pour se préparer, alors pour se préparer je ne sais pas, mais une fois que ça arrive, l'idée c'est de ne pas rester seul et d'aller avec d'autres personnes, qu'il y ait des rituels, qu'il y ait des choses, et puis après de toujours être avec du monde.
Et du coup pour l'organisation justement des funérailles, aujourd'hui il y a plein de choses qui sont possibles. Beaucoup de gens ne sont pas au courant que on peut sortir un petit peu des sentiers battus, mais c'est possible d'organiser de se réunir en fait dans des lieux, je sais pas, dans
à Disneyland.
Mais par exemple, on peut alors faut voir avec l'organisation. Non, mais par exemple, ne serait-ce que je sais pas, se retrouver à la Gaîté Lyrique pour boire un coup, c'est possible. Enfin voilà, il y a des choses aujourd'hui, il y a des célébrants laïcs aussi qui existent. Qui font vraiment des choses sur mesure ou qui ressemblent vraiment à la personne, et il y a plein de choses qui, la dernière fois il y avait une personne qui travaillait dans le théâtre qui m'expliquait qu'elle avait mis en scène aussi un enterrement, c'était l'enterrement d'un jeune garçon qui s'était suicidé, et en fait il avait beaucoup de tocs, et elle expliquait que en fait ils avaient fait un concert de stylos, de clips de stylo, et c'était la petite sœur du garçon qui faisait le chef d'orchestre. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas courant. Et à la fois, c'est rendre hommage à la personne, rendre hommage aussi à ses défauts, et puis donner un rôle à sa petite sœur dans ses obsèques, où elle gardera certainement un souvenir très très fort. Et voilà, donc c'est quelque chose qui sort de l'ordinaire, qui fait du bien, et qui montre que, alors c'est triste, mais on peut en faire quelque chose de joli.
Avec le temps qui nous reste, j'aimerais bien me tourner vers la salle si vous avez des questions, des remarques, envie d'échanger avec nous sur la question de la mort.
Bonsoir, merci beaucoup pour toute cette conversation, c'était passionnant. Moi, c'est pas tant une question qu'une réflexion pour rebondir sur ce sujet de trouver la joie dans la mort et le fait que le deuil ne s'arrête jamais. Je voulais partager avec ma famille. Donc cet été, ça fera 10 ans que ma grand-mère est décédée, et on organise un grand festival pour les 10 ans de sa mort, où vraiment pendant 3 jours, on va faire la fête, on va aller danser au cimetière, on s'est organisé avec la ville, etc. Et parce que déjà, il y a 10 ans, on avait fait une flash mob, on avait mis des couleurs et tout ça, et il y a 10 ans, c'était déjà possible. Donc en fait, il faut tester, il faut tenter, et donc là, on invite tous les gens qui ont parcouru un bout de chemin avec elle à revenir partager des souvenirs, parce que 10 ans plus tard, elle est encore là, encore plus qu'avant d'ailleurs, et voilà, et c'est important de ne pas oublier, d'en parler et de célébrer les gens qu'on aime.
Moi, je veux qu'on fasse ça aussi, tous les 10 ans, qu'on fasse un festival après ma mort. Comme ça, dans 150 ans, on continuera, les gens disent « mais c'était qui ?»
Je veux bien rebondir dessus aussi. Très souvent, on dit que est-ce que tu as fait. Non, c'est les gens viennent me voir surtout et me disent j'ai pas fait mon deuil. Moi, les gens viennent me voir, les endeuillés viennent me voir 2 jours après la mort, mais aussi 10 ans après la mort. Et très souvent, ce que je leur dis, c'est que on ne fait pas son deuil, on chemine avec le deuil. Comme tu disais tout à l'heure, le deuil, c'est toute la vie, et c'est important. Justement, si on en ressent le besoin, de rendre régulièrement hommage à la personne et de ne pas se dire au bout d'un moment, c'est terminé, j'y pense plus, je passe à côté, à autre chose. Voilà, c'est, si on a envie de rendre hommage à la personne toute sa vie, c'est important de le faire. Et parce que, en fait, quand on perd quelqu'un, c'est jusqu'à notre propre mort. Voilà, on chemine.
Une autre question ?
Bonjour, moi j'ai une question plutôt au sujet de notre rapport à notre propre mort. Et, et au fait que ça puisse être assez serein, apaisé, de ne pas avoir peur de la mort. Moi, personnellement, j'ai connu des phases dépressives, mais j'ai l'impression que le fait de ne pas avoir peur de la mort et de pouvoir me dire que potentiellement c'était une issue valable, c'était quelque chose d'indépendant de l'aspect dépressif et que parfois c'est pas entendu parce que justement c'est tabou et que tout de suite de dire bah oui s'il m'arrive un truc, s'il se trouve que je décède, c'est pas quelque chose qui me rebute forcément. Est-ce que c'est nécessairement des idées suicidaires et du coup quelque chose de pathologique ou est-ce qu'on peut le voir comme j'ai envie de dire un aspect presque philosophique et voilà une certaine sérénité d'esprit par rapport à tout ça.
Ça devient pathologique au moment où ça vous handicape dans la vie. En fait, si ça vous handicape pas dans la vie, si ça vous empêche pas de socialiser avec du monde, de travailler, de faire vos loisirs, ben, il y a aucun problème. Vous avez le droit d'avoir des idées suicidaires, vous avez le droit de penser à la mort régulièrement. C'est pas grave. On se dit, bon ben voilà, c'est une issue à laquelle je pense à un moment donné. Peut-être que je vais mettre fin à mes jours. Bon ben ouais. C'est pas... Moi, personnellement, ça me choque pas particulièrement.
C'est très tabou.
Oui, bah pour le coup, si ça peut aider à briser le tabou, j'ai 36 ans et je pense à comment je pourrais me suicider tous les jours, sauf que ça fait très longtemps, en vrai, j'ai été en dépression pendant très longtemps, ça fait longtemps que je suis guérie, j'ai plus du tout envie vraiment de mourir, mais parfois je m'ennuie, je me dis, là si je me tuais, je le ferais comment ? Ou alors je suis sur le quai du métro, je me dis... Peut-être que là, je saute, on sait pas. Et en fait, en parlant avec mes proches, je me rends compte que c'est hyper courant et que c'est une espèce de... C'est comme, tu sais, quand il y a du feu et tu dis, ça se trouve, je peux mettre ma main dedans. C'est comme ça que tu te contrôles pour ne pas le faire, justement. Et je sais que moi, j'ai aussi beaucoup de pensées intrusives. C'est une autre question, les pensées intrusives. Et ça ne concerne pas tout le monde, pour le coup. Mais je sais que moi, j'en ai beaucoup. Et c'est un truc avec lequel je vis constamment de... Eh ben, peut-être là, je tue quelqu'un et je meurs derrière, je sais pas. Mais voilà, c'est des confessions tout à fait saines et normales. J'ai plus de psy. Écoutez, elle m'a larguée, elle m'a dit que j'étais guérie, donc maintenant vous êtes avec moi. C'est tout pour vous. Mais bon, bref, tout ça pour dire que je pense que moi, ça a contribué à mon rapport sain avec la mort, c'est de la voir avec moi tout le temps et de me dire, bah, peut-être à un moment, juste elle va me mettre un coup de coude en disant, allez, c'est le moment. Et ben, bah, au moins, voilà, je sais à quoi m'attendre. Au lieu de faire, ah, ça n'existe pas, je pense que ça m'a vachement apaisée.
On va terminer là-dessus. Désolée. Une magnifique conclusion, Taos. Merci beaucoup. Marine Nina Denis, Taos Merakchi, Daniel Batoula, merci infiniment d'avoir été là pour parler de la mort avec une petite ambiance quand même. Merci beaucoup.
On a bien rigolé.
Chers auditeurs, merci aussi à vous d'être là. Pensez à vous abonner à Encore Heureux et à nous mettre 5 étoiles sur votre application de podcast. On se donne rendez-vous sur Instagram, @encoreheureuxpodcast, sur le site de Binge, binge.audio. Merci aussi au public de la Gaieté Lyrique. L'émission a été réalisée par Pauline Lagache et produite par Charlotte Bex. Merci beaucoup.
Merci Camille.
Découvrez vite la première ovo-sitcom de Paradiso Media, Marie et les œufs en neige.
Marie, c'est moi, et j'ai 36 ans. L'année dernière, j'ai eu un déclic. J'ai réalisé que j'étais célibataire, que j'avais pas d'enfants, et que bientôt il serait trop tard pour en avoir des enfants. Alors je me suis posé plein de questions. Est-ce que je congèle mes ovocytes? Comment j'en suis arrivée là? Est-ce que j'en veux des enfants? Et surtout, pourquoi on fait des enfants en fait? Cette question-là, je l'ai posée à beaucoup de monde. Et vous allez voir, c'est pas simple.
Marie et les œufs en neige, c'est une série en 6 épisodes à écouter dès maintenant dans le podcast Journal Intime.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.